Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Et c'est
Mesdames,
donc,
messieurs, voilà. Bienvenue ici à Thun, sur Place d'Armes de Thun.
Et c'est donc en Suisse que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Vous avez reconnu l'accent, la Suisse qui, en bon pays neutre, a encore un service militaire obligatoire alors qu'on est en train de s'interroger, nous, sur le nôtre. Vous verrez comment ça se passe et surtout à quoi ça sert. Sous les radars, et Florence Paracuelos en Bolivie avec un dictateur mort, à Cannes aussi avec un film kényan interdit au Kenya mais qui vaut le coup d'être vu ici chez nous. Et puis une odeur à Melbourne qui sème la panique. 18h50, Trump, saison 2, et Grégory Phillips qui a retrouvé le chêne planté par Trump et par Macron qui avait disparu, figurez-vous, des jardins de la Maison Blanche. Et vous saurez pourquoi. Vous verrez aussi que le président américain n'aurait rien contre le prix Nobel de la paix. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four qui se met dans la peau des Iraniens ce soir à quelques jours de la sortie de l'accord nucléaire ou pas. Mais tout de suite, c'est en Afrique que nous allons après la mise en examen de Vincent Bolloré. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Même si vous étiez en vacances, la tête ailleurs, quand il faisait encore beau en France, il ne vous a pas échappé que Vincent Bolloré a été mis en examen. Et c'est pas tous les jours qu'un chef d'entreprise de ce calibre-là est inquiété à ce point-là par la justice. Corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux, c'est extrêmement sérieux. Et pour la faire courte, on parle des activités africaines du groupe qui sont les moins médiatisées, mais peut-être les plus importantes pour Vincent Bolloré. Et l'idée, c'est on vous aide à faire votre campagne électorale et à gagner des élections en échange. Vous nous donnez la concession des ports. C'est un peu résumé, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. En l'occurrence, là, pour la Guinée et pour le Togo qui sont concernés. Bonsoir Antoine Glaser.
Bonsoir.
Glaser, pardon, vous êtes spécialiste de l'Afrique, journaliste. Et bonsoir Jean-Pierre Canet.
Bonsoir.
Vous êtes co-auteur avec Nicolas Vescovacci de Vincent Tout-Puissant. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Vous y parlez surtout du rapport que Vincent Bolloré peut avoir avec les médias. Et ça vous concerne directement à Canal, mais aussi des aventures africaines.
L'Empire.
Et voilà, l'Empire qui passe aussi effectivement par l'Afrique. Antoine Glaser, pour commencer, on a beaucoup, évidemment, largement commenté cette mise en examen déjà, mais la réplique de Bolloré était dans le JDD hier avec cette phrase assez étonnante. Nous lisons mal l'Afrique, c'est ça qui nous dit Vincent Bolloré, qu'on imagine faite en gros de dirigeants corrompus pour nous les Blancs, en fait. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette contre-attaque-là, type de contre-attaque?
C'est en fait, c'est ce que j'appellerais l'écho des savanes. Ça veut dire, c'est une façon... C'est de la part de Vincent Bolloré, qui connaît la mobilisation des chefs d'État africains et leur réseau d'influence en France, je pense que c'était une façon aussi pour lui de mobiliser un certain nombre de chefs d'État africains, les élites africaines, en disant, vous voyez comment on me traite à Paris. Et c'est très important parce que pour eux, pour un chef d'État africain, bien sûr que Vincent Bolloré, ce sont les ports, c'est tout ce qui est les chemins de fer, et bien sûr maintenant Canal+, les cinémas, etc. Mais c'était jusqu'à présent, c'était un peu quelque part, entre guillemets, leur homme à Paris. Je veux dire, auprès du chef de l'État, que ce soit Nicolas Sarkozy, même avec François Hollande. Donc ils ont absolument besoin d'une influence, de réseau d'influence à Paris. Et les chefs d'État, c'est pas un hasard que ce capitalisme encore français en Afrique, c'est pas un hasard. Si c'est un capitalisme patrimonial, ça veut dire c'est les gens comme Martin Bouygues, Vincent Bolloré, Pierre Castel, sont des gens qui mettent leur argent et qui ont des relations personnelles avec ces chefs d'État africains. Et c'est vrai que là, le fait de se mobiliser, de dire, voyez, aux chefs d'État africains, regardez comment on me traite en France, c'est assez habile. Mais en fait, la réalité vraie, c'est que jusqu'à présent, Vincent Bolloré, tant qu'il était sur les ports, les chemins de fer, même, et il avait toujours habilement réussi à élaguer tout ce qui ternissait son image. Le tabac qu'il avait trouvé dans les malles des vieux groupes rivaux. Ensuite, la forêt, quand il a vu comment un certain nombre de groupes environnementaux se mobilisaient. Et là, il s'est fait prendre. Là, il s'est fait prendre parce que on parle toujours, bien évidemment, là, on parle parce qu'en fait, c'est une affaire franco-française parce qu'il y avait deux dossiers judiciaires. Celui sur la Guinée avec Neco Trans et celui sur le Togo avec Jacques Dupuy. Mais en fait,
on va rentrer un tout petit peu dans le détail pour les gens qui sont peut-être déjà perdus.
Mais en fait, Havas, c'est pas simplement au moment des élections. C'est que quand il y a des grandes manifestations qui s'organisent pour un certain nombre de chefs d'État africains, bah, bien sûr, vous savez, ce sont des petits pays, il n'y a pas grand monde non plus.
Alors, on va revenir sur ce que vous disiez à l'instant. Je voudrais juste terminer sur cette tribune d'hier où il a cette phrase, il dit « faut-il abandonner l'Afrique ?» Et là aussi, effectivement, j'entends bien bien le double sens que vous nous expliquez, ce qui est aussi une manière de dire, si moi je pars, si moi Bolloré je pars, la porte est ouverte aux autres. Exactement. Mmh. Après moi le déluge et surtout après moi la Chine.
Après moi la Chine, mais ça a commencé. Vrai qu'on voit que pour la première fois sur un port, c'est au Bénin, à Cotonou, vous avez un président africain, Patrice Talon, qui a dit il y a 15 jours, il a dit, écoutez, j'ai dit à Vincent Bolloré, voilà le chemin de fer qui doit aller du Bénin au Niger. Finalement, les propositions des Chinois sont tellement importantes que je vais choisir les Chinois. C'est la première fois, ce qui montre que l'Afrique se mondialise.
C'est la grande infrastructure, ça, il faut rappeler quand même que c'est l'énorme grand projet, 3000 km de voies ferrées, de Cotonou jusqu'à Abidjan, via Niamey, via Ouagadougou. Il est mort, ce projet, ce grand projet Bolloré?
Non, mais je veux dire, il faut déjà, il y a bien sûr, tu as un problème de sécurité, mais il y a un problème d'investissement. Ouais. Bien évidemment que les Chinois, de la même façon qu'ils ont fait le chemin de fer de Djibouti jusqu'il va en Éthiopie, de la même façon qu'ils sont très présents. Je veux dire, c'est bien évident que, encore une fois, les grands groupes français sont en perte de vitesse sur ce continent. Il y a un certain nombre de grands patrons qui restent, mais dans certains types de relations, encore une fois, les chefs d'État africains, finalement, de temps en temps, acceptent des marchés de gré à gré avec les Français parce que ils aiment les réseaux d'influence en France. Il ne faut pas oublier qu'en France, c'est là où sont les oppositions africaines, la diaspora africaine qui sont... Où est-ce que sont les pro-Bagbos de la Côte d'Ivoire, que ça soit... vous avez 500 Maliens, vous avez 300 000 Ivoiriens, alors que les Français en Afrique sont en voie de disparition. Toute la zone sahélo-saharienne, déjà, il n'y a plus personne, mais des pays même comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, vous avez 20 000 Français, 10 000 Français, mais finalement, les chefs d'État africains, ce qu'ils craignent, c'est les oppositions en France. Et jusqu'à présent, on se disait avec des gens comme Vincent Bolloré, qui a Canal+, qui a des réseaux de communication, on peut quand même limiter les dégâts.
Et Jean-Pierre Canet, c'est aussi ce que vous décrivez. D'abord, vous décrivez la méthode de cow-boy, qui est celle de Bolloré lorsqu'il est chez Vivendi et ailleurs.
Oui, c'est pas notre expression d'ailleurs, c'est l'expression de Dominique Lafont, l'ancien DG de Bolloré Logistique.
Exactement, et cette méthode-là qui est aussi appliquée, y compris sur les terrains africains, c'est le même bonhomme qui fait tous ces qui travaille de cette manière.
Et moi, j'aurais juste, par rapport à ce qu'on disait, alors, donc en gros, si on a une lecture du monde hyper réaliste, comme les Chinois sont agressifs sur le plan concurrentiel, du coup, on peut éventuellement, j'emploie des mots évidemment prudents, faire de la corruption présumée, puisque évidemment, rien n'est prouvé, il faut bien le dire, l'enquête ira jusqu'au bout.
Si on ne le fait pas, ça ne marche pas de toute façon, donc on fait comme tout le monde.
Voilà, donc en fait, moi, c'est une forme de chantage politique, cette affaire-là. Alors, en effet, la lecture géopolitique montre que la France a moins d'influence en Afrique. Elle en a encore. Je rappelle quand même que pour Bolloré, ses activités africaines, c'est 80% de ses bénéfices. Donc, quand il nous explique hier dans le JDD que éventuellement il se retirerait de l'Afrique, je pense quand même qu'il doit y réfléchir un tout petit peu, parce que c'est quand même c'est 26 ports dans lesquels il a des activités, c'est considérable.
46 pays,
20 milliards
autant que je
de chiffre d'affaires.
46 pays, 200 implantations. Oui. On s'en va pas comme ça, évidemment, non. D'un pays comme celui-là. Ce que vous soulignez aussi, et vous l'avez un peu évoqué aussi, Monsieur Glaser, c'est la difficulté de savoir jusqu'à quel point nous savons, nous, État français, en fait, ce qui se passe dans ce genre de transactions. Vous dites, vous, par exemple, Jean-Pierre Canet, c'est un extrait de votre livre, juste après le sommet de Lisbonne, on est en 2007, le président du Togo explique « J'ai un gros problème. Lors du sommet, nous nous sommes vus avec Nicolas Sarkozy. Il a dit que la France soutenait ses amis comme le Togo, mais qu'en contrepartie, la France attendait de ses amis qu'ils se comportent de manière amicale. Et là, Fornia Simbe, qui est donc le président du Togo, me dit que Sarkozy lui a demandé de donner la gestion du port à Lomé, à Bolloré, en direct. » Voilà, c'est comme ça que ça se passe ou pas ?
C'est-à-dire, en fait, ça se passe pas, même là, ce sont des mots, mais ce qui est certain, c'est que pour un chef d'État africain, quand vous placez dans une Afrique mondialisée, la France, à partir du moment où vous avez quand même une présence militaire française et sécuritaire extrêmement importante, c'est vrai que pour un chef d'État africain, encore une fois, en dehors des projets eux-mêmes, parce qu'ils ont quand même besoin de tous ces investissements, mais en même temps, ce qui les intéresse à Paris, c'est l'influence qu'ils peuvent avoir. Et c'est là où quelqu'un comme, je pense à Martin Bouygues ou Pierre Castel, m'assemblerait, que quand vous avez, par exemple, quand vous avez, par exemple, la fondation de Children of Africa, de la première dame de Côte d'Ivoire, bien évidemment que le 18 mars 2008, vous aviez Vincent Bolloré et Martin Bouygues, parce que la politique et le business, ça marche comme ça en Afrique. Donc vous avez des réseaux d'influence comme ça, et à partir du moment où il a pris Havas, et à ce moment-là, il s'est fragilisé, ça veut dire il rentre dans le conseil politique, et vous avez, là, on parle bien évidemment des campagnes présidentielles, mais moi je peux vous citer une dizaine d'exemples où il y avait un certain nombre de gens d'Havas qui ont organisé pour le Cameroun pour Biya. En septembre 2010, vous aviez un grand raout pour le cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun. Ben, vous aviez Havas qui avait fait venir quand même Alain Juppé et Michel Rocard. Faut quand même, qui peut faire déplacer Alain Juppé, Michel Rocard, etc. avec, je veux dire, un avion
et
privé,
ils y vont,
etc.
Évidemment, et
alors,
évidemment,
qui a payé? Moi, j'en sais rien qui a payé. Mais quand vous êtes le président Biya, et puis que quelqu'un est capable de faire venir des gens comme ça chez vous, ben, je veux dire, c'est bonus.
Ce que dit Antoine Glaser, c'est très intéressant, parce qu'on est en permanence, évidemment, l'économie mondiale ne se résume pas au rapport de la France et de l'Afrique. Hein. Tous les chefs d'État, les Américains font ça, ils défendent leurs entreprises, etc. Les Chinois, bien entendu. Simplement, la question qui se pose là, c'est jusqu'à quand on défend des intérêts nationaux, hein, par exemple, quand Nicolas Sarkozy va défendre les intérêts de Vincent Bolloré au Togo, ou quand François Hollande, parce qu'on en parle aussi dans le bouquin, va par exemple intervenir pour pousser un petit peu pour le port de Kribi, l'obtention du port de Kribi au Cameroun. Jusqu'à quand ça, c'est de la politique? À partir de quand on bascule dans des zones plus floues, plus compliquées, voire avec de la corruption potentielle? C'est ça la question.
Mais même d'ailleurs, entre Bolloré et les présidents, finalement, à quel moment commence la corruption ou se termine l'offre de service?
C'est une ligne
qui est très compliquée, évidemment.
Quand vous avez un empire avec plusieurs armes, vous avez plusieurs cordes à votre arc qui sont extrêmement complémentaires. Vous avez une agence de communication qui est la sixième mondiale, Havas. Vous pouvez donc lancer des campagnes, vous avez une machinerie extrêmement forte. Vous lancez une campagne pour vous miser sur un président sortant ou sur un candidat potentiel Alpha Condé en 2010 qui peut l'emporter. Vous mettez toute la puissance de feu là-dessus. Vous avez par ailleurs des activités industrielles déjà dans ce pays, puis vous voulez les renforcer. Et par-dessus le marché, quelques années plus tard, vous avez Canal+. Et là, vous empêchez qu'un reportage un peu critique sur Faure Gnassingbé au Togo soit rediffusé. Et par-dessus le marché, vous remettez une couche avec un reportage qui est quasi un public reportage à la gloire de Faure Gnassingbé. Ça fait beaucoup. Nous, ce qu'on raconte, Antoine Glaser, c'est un spécialiste de l'Afrique. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'Afrique. On est juste, on constate qu'un empire, à un moment donné, qui a autant d'éléments en lui qui peuvent être des conflits d'intérêts potentiels, à un moment donné, ça craque. En fait, c'est ça l'histoire.
Alors, ça craque, ça a mis du temps à craquer quand même. Il y a déjà eu une information judiciaire qui avait été ouverte, c'était en 2013.
Oui, 2013, il était témoin à l'époque.
Il était témoin. Alors, vous citez, parce que vous l'avez eu entre les mains, les réponses qui sont très impressionnantes. Hein. Je n'ai pas le souvenir, je ne m'en souviens plus, je ne m'en souviens pas, je ne sais pas, qui est répété à peu près 10 fois.
Je ne gère pas de concession particulière.
Je ne gère pas de concession particulière. Qu'est-ce qui se passe là qui fait qu'effectivement quelque chose se craque par rapport à ce qui s'est passé en 2013?
Il y a une perquisition en 2016, à la tour Bolloré. Il y a également eu une perquisition suite chez Havas. Donc nous, on n'est pas dans les petits papiers des juges, je tiens à le dire. Apparemment...
Mais il y a une fragilité, en tout cas. Il y a une nouvelle fragilité, on va dire.
Oui, puis ils ne pouvaient pas tout retenir à l'oral. Hein. Il y a des traces écrites aussi.
Oui, je pense que, encore une fois, c'est là parce qu'on n'est pas dans des dossiers franco-africains. Sinon, Vincent Bolloré pourrait dire, vous n'avez qu'à nous poursuivre en justice en Afrique.
Bien sûr.
Mais là, parce qu'on est dans des dossiers franco-français. Et c'est vrai que la façon dont le groupe Négo-Trans s'est fait virer quand même du port de Conakry. Et c'est
Manu aussi... Militari au sens propre
bien
du terme.
Sûr,
hein, c'est comme ça que ça s'est passé.
Absolument, absolument. Mais ce qui est certain aussi, il faut le dire, c'est que c'est vrai qu'Alpha Condé était un vieil ami de Vincent Bolloré, ou plutôt Vincent Bolloré de Alpha Condé. Donc, encore une fois, c'est vrai que le fil est très ténu entre, finalement, un dossier qui va se révéler quelque chose de corruption et des services rendus. Il faut quand même bien dire aux auditeurs, on est quand même dans des pays où le Gabon, il y a 1,2 million d'habitants, c'est 19, 23 millions. Ça veut dire que Bolloré, dans ces pays, c'est une puissance. Ça veut dire que ce sont des petits pays. Et donc, sans des petits pays, il n'y a pas une concurrence énorme. Hein.
Les activités industrielles sont restreintes aussi.
Absolument. Donc, on ne peut pas dire... Évidemment, ils ont horreur. On n'est pas en situation de monopole. Il ne faut pas dire ça. Mais on est dans une situation... Mais Vincent Bolloré lui-même, quand il s'est fait virer du port de Dakar par Dubai Sport World, lui-même a été victime, quelque part, du fils d'Abdoulaye Wade, qui lui représentait Dubai Sport World dans la région. Mais là aussi, ça a joué contre lui. Ça veut dire que finalement, il a été... Nicolas Sarkozy était fou furieux. Le Karim Wade est venu à Paris voir Guéant et Nicolas Sarkozy.
Au milieu, il y avait eu le discours de Dakar qui avait été très mal perçu et qui a changé peut-être la donne.
Promettre une centrale nucléaire, etc., à la place du port. Mais encore une fois, ça a joué, là, dans l'autre sens. Contre Bolloré, c'est Dubaï qui avait pris le port de Dakar par copinage du fils d'un chef d'État.
Mais bien sûr, pardon, je vous coupe, mais bien sûr qu'on ne peut pas résumer Vincent Bolloré se comporte en Afrique comme tout un tas d'autres entreprises étrangère. Il n'y a pas que, que lui qui se comporte comme ça, bien entendu.
Et j'allais vous poser la question, parce que ce qu'on est en train de dire là, j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit pour plein d'entreprises étrangères, et puis on l'avait dit à son époque pour Elf, et puis on l'avait dit aussi à une certaine époque pour Total. Enfin, on a l'impression que rien ne change, en fait, non?
Non, en fait, ce qui change réellement, franchement, c'est que de 1960 à 1990, la France était chez elle en Afrique.
C'est ça.
Dans un système complètement intégré, politique, militaire, financier, et les entreprises françaises, dès qu'elles avaient un problème, elles appelaient l'ambassadeur de France, qu'appelait le chef de l'État. Et on vit encore un peu une sorte d'anachronisme historique. Mais l'Afrique est totalement mondialisée.
C'était le sens de ma question. Est-ce que cette affaire, et est-ce que finalement Bolloré en Afrique, c'est les derniers oripeaux de cette France-Afrique-là?
Moi, je ne dirais pas oripeaux, mais je veux dire, c'est vrai que, encore une fois, ce n'est pas hasard si, maintenant, c'est les Chinois que vous avez un peu partout. Ils ont pris les marchés des Français, ce qui est normal, parce que les Français avaient des marchés à 60%. On sort d'un anachronisme historique.
Une dernière chose, Antoine Glaser, quand même. Alors, vous nous avez expliqué effectivement en quoi, notamment l'opposition africaine, peut parfois freiner des cas de fer. Moi, j'aimerais savoir ce que ça change quand même sur place. Alpha Condé, par exemple, est très contesté en ce moment. Est-ce que l'opposition peut se saisir de ça? Est-ce qu'il peut changer cette donne-là ou pas?
À mon avis, ça vient beaucoup plus des diasporas. On sous-estime l'importance des diasporas. Et ce qui gêne finalement les chefs d'État africains, c'est l'écho des savanes dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est les diasporas ici qui se mobilisent, qui essayent de passer justement dans la presse française, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en Afrique, ou très peu de contre-pouvoir.
Donc la commission parlementaire demandée, tout ça, ça n'aboutira pas selon vous. Mais est-ce que des lignes peuvent bouger
non,
ou pas du
tout? Localement, c'est pas l'affaire Bolloré qui fait bouger. C'est vraiment du franco-français.
Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le temps d'enquête, il sera extrêmement long.
C'est ce qu'on dit.
Évidemment, ce que vous dites, combien j'ai lu, peut-être une dizaine d'années.
Oui, bon, ça me paraît être un petit peu trop.
Bah écoutez, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion de revenir pour nous le dire. En tout cas, Jean-Pierre Canet, je rappelle qu'avec Nicolas Vercovacci, vous avez écrit Vincent Tout-Puissant, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher. C'est Jean-Claude Lattès, parce que vous nous racontez notamment au début que effectivement, subitement, ça a été très compliqué pour vous, non seulement d'enquêter, puis de voir arriver des gens curieux qui s'intéressaient à votre travail.
Dès que vous posez une question, là vraiment, Vincent Bolloré en France est le spécialiste des procédures Bayon ou des attaques immédiates au tribunal. Dès que vous posez des questions sur l'Afrique, notamment. Benoît Colomba, qui est de cette maison, pourrait en témoigner.
Il y a eu
énormément de procès de cet ordre. Et nous, en l'occurrence, il a un tout petit peu innové. Il nous a envoyé un huissier avant qu'on sorte le bouquin, un an avant, considérant que les questions qu'on lui pose étaient du harcèlement. Voilà.
Et c'est vrai, Benoît Colomba, Élodie Guéguin aussi, chez nous, qui connaissent effectivement ces méthodes-là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite en Suisse, nous vous emmènerons voir comment marche le service militaire, puisqu'il existe depuis 1848, figurez-vous, et qu'il a très peu bougé, très bien organisé dans ce pays neutre, sous les radars, avec notamment une odeur qui sème la panique en Australie. Le Monde selon Trump, saison 2, et Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Vous avez retrouvé l'arbre de Donald Trump, en fait, il était passé où?
Oui, l'arbre planté par Emmanuel Macron à la Maison Blanche avait disparu, figurez-vous. On l'a retrouvé. Et puis, autre question, Trump peut-il avoir le prix Nobel de la paix?
Ben, on verra ça ensemble dans un instant. Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Dans la peau du pouvoir iranien ce soir.
Oui, ce soir, je suis Hassan Rouhani, à 12 jours de l'échéance du compte à rebours déclenché par Donald Trump, essayant de comprendre la position iranienne. Vous allez voir, il y a des arguments côté Téhéran.
Allez, à tout à l'heure. Le tour de la planète continue avec un détour par le Bénin. La formidable Angélique Kidjo, Summertime.
Baby, you won't worry. Baby, you're born for what is.
Angelique Kidjo, Summertime sur France Inter. Sous les radars, c'est Florence Paracuelos.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Et Florence, on commence avec une fin. C'est la fin du dernier dictateur bolivien.
Luis Garcia Meza, 88 ans, mort dans un hôpital militaire de La Paz où il purgeait une peine de 30 ans de prison pour les crimes commis sous sa dictature. Courte dictature, 13 mois entre juillet 1980 et août 81. Le général Garcia Meza avait pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État, comme ses prédécesseurs depuis les années 60. C'était l'époque de l'école militaire des Amériques, académie créée par les États-Unis pour former les officiers sud-américains américain à l'anticommunisme. Il y fera son apprentissage pour le mettre en pratique au moment où un candidat de gauche est élu à la présidentielle.
L'action des groupes castro-communistes désencadena une escalade terroriste.
Alors on a toute la rhétorique de l'époque, le castro-communisme, les terroristes qu'il faut réprimer et pour ça tout est bon, y compris la collaboration de Klaus Barbie, réfugié en Bolivie, l'ancien nazi mais ses fiancés de la mort, c'est le nom de son groupe de paramilitaires au service de la répression des opposants. Les rafles sont nombreuses, les assassinats, la torture, un millier de morts au moins et puis ce sera la chute précipitée par le lâchage des États-Unis, pas à cause de la répression non, mais à cause des tonnes de cocaïne sur lesquels prospère le régime. Le ministre de l'Intérieur est un cousin du plus gros trafiquant de drogue du pays. Le court règne de Garcia Meza, le narco-dictateur Fabienne, aura été le plus sanglant du XXe siècle en Bolivie.
Florence, nous repartons pour l'Afrique, finalement, dans un pays qui ne verra pas le premier film kényan sélectionné au Festival de Cannes.
Et oui, ce pays, Fabienne, c'est le Kenya. Kenya. Les Kenyans ne verront pas Rafiki présenté à partir de la semaine prochaine dans la sélection Un Certain Regard.
Let's make a pact that we will never be like any of them down there. Instead, we're gonna be something real.
Rafiki, censuré par le comité ad hoc parce qu'il raconte une histoire d'amour entre deux femmes, une sorte de vie d'Adèle à la kényane en nettement moins expressionniste. Son but évident est de promouvoir le lesbianisme au Kenya, ce qui est illégal et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kényan, dit le comité de censure, ce qui désole évidemment la réalisatrice de Rafiki, Vanui Kayu, qui a mis 7 ans à faire ce film.
I'm incredibly disappointed because I believe in Kenya.
Je suis tellement déçue parce que je fais confiance au Kenya. Je suis sûre que les spectateurs kényans sont suffisamment mûrs pour voir ce film, pour en discuter sans forcément l'aimer. Mais ce qu'on présente, c'est une histoire honnête sur ce qui se passe au Kenya. Ce film est un reflet de la société, un reflet que les autorités préfèrent cacher et punir. Au Kenya, les relations homosexuelles sont passibles de 14 ans de prison.
Enfin, Florence, un accident chimique a eu lieu à Melbourne samedi on ne le savait pas.
L'alerte a été donnée vers 15h samedi. Un danger chimique menace la bibliothèque du campus de la fac de sciences de Melbourne. Une odeur extrêmement inquiétante se répand. 600 personnes sont évacuées. Une équipe de spécialistes dans les matières dangereuses est envoyée sur place. Et voilà l'objet du délit. C'est horrible. C'est un durian, Fabienne.
Holy smoke!
Kai, le durian, gros fruit tropical à piquant, autrement appelé le fruit qui pue, qui pourrissait dans un placard de l'université.
Un durian frais, ça sent mauvais, mais alors un durian pourri, ça doit être épouvantable.
Dont l'odeur a envahi le réseau de climatisation. Cette odeur, décrite dans la littérature comme un mélange de térébenthine, d'oignon et de jus de chaussette après un match de foot, c'est universel,
c'est presque aimable.
Apparemment. Après les attentats pâtissiers de l'entarteur belge, vous le connaissez, Fabienne, à coups de tarte à la crème, voici donc les attaques fruitières au durian, bombe odorante à retardement.
Et comme vous dites, Florence Paracuelos, merci, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Suisse que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Alors que nous attendons, nous, en France, pour bientôt de savoir à quoi va ressembler le futur service national universel, alors que les Belges peinent à fidéliser leurs recrues, vous l'avez peut-être entendu tout récemment. Voici la Suisse qui, en bon pays neutre, a conservé un service militaire obligatoire, et ce depuis 1848. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir.
Spécialiste de défense, Nathalie, pour France Inter, vous en revenez de Suisse et vous avez rencontré ces miliciens, c'est comme ça qu'on les appelle et ça n'est pas péjoratif, ces miliciens, donc soldats citoyens.
Être milicien, ça fait partie de leur vie, c'est un devoir citoyen, même si la Suisse, grande comme l'Île-de-France, avec ses 8 400 000 habitants, est un pays neutre, et que son engagement à l'étranger est minime, avec 350 hommes déployés. La question avait d'ailleurs été posée il y a 5 ans, s'il fallait oui ou non supprimer ce service obligatoire. La réponse avait été non à 73%. Le pays a besoin de cette milice, ne serait-ce qu'en cas de catastrophe naturelle. Son armée professionnelle ne compte, elle, que 3 000 militaires. La conscription reste donc obligatoire pour les hommes, sur la base du volontariat pour les femmes. Les miliciens sont aujourd'hui 150 000. Leur première étape, l'école de recrues à partir de 18 ans, détaille le général de corps d'armée Dominique André, conseiller militaire du ministre suisse de la Défense.
Sur la base des tests d'aptitude, des tests physiques, on lui attribue une fonction qui recouvre dans la majeure partie des cas aussi ses intérêts personnels ou ses choix personnels. Et puis après, en accord avec l'armée, il fixe la première période de formation, ce qu'on appelle l'école de recrues de 18 semaines. Il doit le faire en principe dans les deux ans qui suivent la chose. Il est formé comme soldat dans une fonction spécialisée et il est formé à l'entraînement jusqu'au niveau de l'unité, de la compagnie.
Julien vient de rejoindre l'armée à tout juste 18 ans. Il est actuellement basé à Payerne, dans le canton de Vaud, sur la principale base aérienne du pays.
C'est ce qui m'arrangeait le plus, comme ça j'ai fini mon lycée et comme ça j'ai pu directement enchaîner avec l'armée en début d'hiver. Par la suite, je compte faire ingénieur en électronique. Donc en ce moment-là, je suis électronicien sur les Super Puma. C'est une très bonne continuité sur le lycée que j'ai fait.
Daniela fait, elle, partie du millier de femmes volontaires qui font leur service. À 18 ans, elle veut devenir laborantine, mais elle aime aussi la mécanique et les hélicoptères.
Oui, c'est bien, je me suis trouvée bien. Sportivement, pour moi, c'est un petit peu difficile. Je suis la seule femme ici comme recrue, mais ça va, ils sont bien les autres. Ils aident moi quand j'ai besoin, ça va, c'est bien.
Mesdames, messieurs, bienvenue ici à Thun, sur place d'armes de Thun.
Une fois passée cette école de recrue, ce n'est pas terminé. Il faut suivre des cours de répétition, ce qui veut dire à minima 3 semaines, 6 fois de suite, que vous pouvez échelonner sur 9 ans. C'est le cas du sergent Yann, pharmacien dans le civil. Il est affecté au service d'instruction des troupes blindées à Thun, dans l'Oberland bernois.
Je suis presque en fin de service, j'ai actuellement 32 ans, donc j'ai encore 2 ans de service obligatoire sous forme de cours de répétition chaque année. Là, j'en suis à mon avant-dernier.
Et qu'est-ce que vous faites ? Vous reprenez ce que vous aviez eu comme formation initiale ?
Alors, tout à fait, on reprend une partie de la formation initiale. Moi, je suis plutôt spécialisé dans l'instruction des recrues au niveau du simulateur. C'est vrai que mon travail consiste surtout à me mettre à jour par rapport aux différentes nouveautés qu'il y aurait pu avoir dans ce simulateur-là.
Jusqu'à la fin des obligations militaires, chaque citoyen soldat doit s'entraîner régulièrement au tir, entretenir et garder précieusement son arme, ce qui ne pose aucun problème pour le sergent Yann.
On peut presque dire ça, oui, c'est presque dans les gènes. Vous avez l'habitude d'avoir cette arme à la maison. Votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père l'ont tous eu une fois. Voilà, on ne se pose pas vraiment la question finalement. On fait simplement attention à ce qu'elle soit bien mise sous clé.
Cet investissement citoyen n'est pas évident à concilier avec une vie d'étudiant ou de salarié et cela demande pas mal de flexibilité de la part des entreprises. De plus, l'aspect militaire séduit moins. Beaucoup optent pour le service civil, nous explique le sergent Fabien, un jeune Français naturalisé suisse, lui qui a pourtant choisi la voie classique.
C'était à une époque vraiment du 80% service militaire, 20% service civil. De nos jours, en tout cas, moi, mon recrutement, j'ai constaté plutôt un 60% service civil, 40% service militaire. C'est plus ou moins ça.
En effet, un jeune Suisse peut choisir de faire ce service civil. Il est une fois et demie plus long et il est assorti d'une taxe annuelle équivalente à 3% de ses revenus. Ce service civil est utile à la société pour Lisa Madzon, conseillère nationale pour les Verts, bien plus que le service militaire et il doit être encouragé.
En ce moment, on est dans un grand combat parce que le service civil est attaqué en fait, de plein fouet par l'armée. L'armée estime que le service civil lui fait de l'ombre. Et par conséquent, essaye de durcir les conditions d'admission au service civil, alors que le service civil apporte, alors là, pour le coup, un vrai bienfait, une vraie contribution à la société, dans le domaine notamment du soin aux personnes âgées ou de la protection de l'environnement. On l'a dans différents domaines aussi, dans le domaine de la migration, le soutien aux réfugiés. Donc oui, il joue un rôle et une contribution à la société qui me semble essentielle.
Depuis le début de l'année, l'armée suisse tente de se réformer pour rendre son service plus attrayant. L'objectif à terme est d'avoir moins d'effectifs, 100 000 miliciens, mais mobilisables beaucoup plus rapidement.
Nathalie Hernandez et l'armée suisse dans Un jour dans le monde sur France Inter. Voici Kendrick Lamar dans Don't Do It.
Hitler, Greg gets laid off. Niggas, same rules, same chalk. Different decade, same law. Keep focused.
is. You wanna get caught with your eyes open. You wanna stay clear of the prognosis. Pry provoke them, watch the motion. Watch them close enough to let the host up in corrosion. Roller coaster ride, that bitch. Sooner later, sides gon' switch. You know Johnny got that itch. How many more rush? Gotta chill, pour up, jump, flame, by the play, bash, stop, wait, break.
Allez, Kendrick Lamar, Don't Do It sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Hès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Tu en série le lundi, Trump saison 2 et Grégory Phillips. Grégory, on a suivi avec vous la visite d'Emmanuel Macron la semaine dernière et on a bien vu cette fameuse photo qui a fait le tour du monde, qui a été d'ailleurs aussi moquée, des deux hommes en train de planter un arbre. Et là, qu'est devenu l'arbre? Où est le jeune chêne disparu des jardins, Grégory?
Alors cet arbre venu du bois bello pour marquer l'amitié durable entre les deux pays. On se souvient que dès son arrivée à Washington lundi dernier, ça avait été quasiment le premier geste du président Macron de planter cet arbre dans les jardins de la Maison Blanche. Vous l'avez dit, la photo a été extrêmement commentée. Sauf que Fabienne, en fin de semaine dernière, l'arbre a disparu de la pelouse sud, juste en face du bureau ovale. Immédiatement question, qu'est devenu le symbole de l'amitié franco-américaine? Pourquoi a-t-il été déterré? Faut-il y voir un signe de rupture diplomatique? Eh bien, pas d'inquiétude. En fait, l'ambassadeur de France ici à Washington a fini par nous dire que même pour un cadeau présidentiel, il fallait se soumettre aux règles strictes des douanes américaines et que donc l'arbre a été placé en quarantaine, comme pour toutes les importations de plantes ou de graines ici aux États-Unis. Et on nous promet que ce jeune chêne du bois bello sera bientôt replanté. J'irai vérifier mais et évidemment, je raconterai.
J'allais vous le dire, évidemment que vous vérifierez. D'ailleurs, vous arrêtez tout, vous vous mettez uniquement sur ce sujet. Mystère 1 résolu donc, Grégory. Sinon, samedi soir, c'était le fameux dîner traditionnel des correspondants de la Maison Blanche, sans Donald Trump, qui boycotte ce rendez-vous depuis qu'il est président. Et cette année, le dîner a un peu dérapé quand même. Dites-nous pourquoi.
Alors d'abord, vous l'avez dit, Trump a une nouvelle fois refusé d'assister au dîner, comme le faisaient pourtant ses prédécesseurs. Et samedi soir donc, il était en meeting à Washington, mais pas Washington DC, Washington, Michigan. On voit bien le message, c'était un peu la vraie Amérique contre celle des médias et des producteurs de fake news. Donc samedi soir, dîner des journalistes qui couvrent la Maison Blanche. La tradition veut qu'on invite un comique sur scène, là en l'occurrence une comique, elle s'appelle Michelle Wolf, connue notamment pour ses apparitions dans le Daily Show sur Comedy Central. Sauf que ses blagues ont mis presque tout le monde assez mal à l'aise, notamment quand elle s'était attaquée à la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, avec des plaisanteries sur le physique ou jugées par certains assez sexistes. Écoutez un extrait.
À chaque fois que Sarah Sanders monte sur le podium, je suis très excitée, parce que je ne sais pas à quoi on va avoir droit. Une conférence de presse ou un tissu de mensonges. J'aime beaucoup Sarah. Je pense qu'elle est pleine de ressources. Par exemple, elle prend la réalité et elle la réduit en cendres. Et ses cendres, elle s'en sert de maquillage. Peut-être qu'elle est née pour faire ça, mentir tout le temps.
Voilà, Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche, est dans la salle, elle est même sur scène, elle encaisse les coups sans le moindre sourire, ça je peux vous le dire.
C'est pas très drôle par ailleurs, non?
Ouais, c'est raté. Et vraiment, en plus, dans cette animosité qui entre la Maison Blanche et la presse, ça tombait assez mal. Plusieurs correspondants ont fait savoir qu'ils avaient jugé ces plaisanteries déplacées. Quant à Trump, ça a été assez facile pour lui de démolir complètement ce dîner des correspondants. Ce rendez-vous, a-t-il tweeté dimanche matin, est mort. C'est un désastre, une honte pour notre pays.
Grégory, cette question qui peut paraître un petit peu bizarre, mais est-ce que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix?
Et pourquoi pas, pour son rôle dans la crise coréenne et le rapprochement entre les deux Corées, c'est en tout cas ce qu'estiment certains élus républicains qui pensent que le président des États-Unis mérite le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, je vous parlais à l'instant du meeting de samedi soir dans le Michigan. Écoutez ce que chantait la foule des supporters de Trump.
Ils disent Nobel, Nobel.
Nobel, Nobel.
Et pas Rebel, Rebel, comme dirait David Bowie.
Trump se marre. I just want to get the job done. Moi, je veux juste que le boulot soit fait, commente le président américain. Alors, Trump, prix Nobel de la paix comme Obama en 2009. Les supporters de l'actuel locataire de la Maison Blanche y croient, arguant que Barack Obama, et c'est un peu vrai, n'avait pas accompli grand-chose pour décrocher son Nobel. Quant à la rencontre entre Trump et Kim Jong-un, vous savez qu'on continue à la préparer ici. Pas de date pour l'instant, ce serait fin mai, début juin. Et ce matin, Trump a tweeté pour dire qu'il verrait bien cette réunion avec Kim à la frontière entre les deux Corées, à l'endroit même où s'est déroulé la semaine dernière le sommet historique entre les dirigeants nord et sud coréens. On verra bien, on sera sans doute amené à en reparler rapidement, Fabienne. Oui. Il y a deux autres options sur la table pour l'instant, c'est Singapour et la Mongolie.
Voilà, bah écoutez, vous suivrez ça pour nous, merci beaucoup. Et tiens, je vous le dis, marquez-le, mark my word, comme on dit chez vous. Si Trump est prix Nobel, je mange mon micro. Tiens, allez, à demain.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Et Jean-Marc Four, le monde à l'envers. Comme tous les jours, dans Un jour dans le monde, Jean-Marc, le compte à rebours a commencé à la fin de la semaine prochaine. Peut-être qu'on entendra ça. Paf, le papier déchiré, c'est même le geste qu'avait fait le patron de la Maison Blanche. Le papier déchiré, c'est le fameux accord nucléaire iranien. Emmanuel Macron, on le sait, s'est entretenu avec le président iranien Hassan Rouhani pour essayer de le convaincre d'ouvrir de nouvelles négociations. Téhéran va pas se laisser faire pour une raison simple, et c'est votre monde à l'envers aujourd'hui, Jean-Marc. De votre point de vue iranien que vous adoptez ce soir, il n'y a aucune raison de changer cet accord sur le nucléaire.
Oui, admettons que je suis le pouvoir iranien, ou mettons que je suis la petite souris dans le téléphone qui traduit les propos du président Rouhani lors du coup de fil avec Emmanuel Macron hier après-midi. La première chose que je veux vous dire, c'est que nous avons juridiquement raison. Il n'y a aucune justification à la remise en cause du Barjam, c'est le nom que nous donnons à cet accord en farsi. D'abord, il a été signé par tout le monde, et ensuite, il a été entériné par l'ONU dans sa résolution 2231, y compris son volet sur les échéances en 2025 et 2030, que vous voulez rouvrir aujourd'hui. C'est donc bien un accord international et pas un accord bilatéral avec les États-Unis, même si Donald Trump le déchire, vous l'avez très bien fait à l'instant, ça ne fera pas disparaître l'accord qui restera valide en termes juridiques. Les autres signataires, notamment les Européens, la Russie ou la Chine, demeureront tout à fait libres de l'appliquer.
Alors, si vous êtes donc le pouvoir iranien, Jean-Marc, moi je vous dis, bon, admettons le point de vue de droit, mais dans les faits, qu'est-ce qui nous garantit que vous appliquez bien cet accord ?
Eh bien, je vous réponds, l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est l'organisme international reconnu par tout le monde. Lisez son dernier rapport, il date de début mars, le voici, je vous l'ai apporté ici en studio dans sa version en français. C'est court, hein, ça fait 6 pages, c'est vite lu. Ça dit quoi ? Bah, que nous, l'Iran, nous respectons nos obligations. Que les inspecteurs ont eu accès à tous les sites où ils voulaient se rendre, avec des centaines de contrôles à la clé. Que le taux d'enrichissement de l'uranium ne dépasse pas 4% conformément à l'accord, etc., etc. Alors il se dit que ce soir, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, va affirmer que nous mentons sur le nucléaire. Mais seule la voix de l'AIEA est fiable. À l'inverse, les Américains ne respectent pas leurs paroles. La contrepartie, c'était une levée des sanctions économiques contre nous. Dans les faits, elles sont pour l'essentiel toujours en place. Pourquoi ? Parce que le département du Trésor américain dissuade les grandes compagnies internationales, y compris européennes, d'investir en Iran en les menaçant de représailles. Par exemple, on voulait obtenir des licences aéronautiques, c'est très compliqué. Nous avons commandé une centaine d'Airbus, on nous en a livré seulement une dizaine. On pourrait multiplier les exemples. Ce sont les Américains qui sont de mauvaise foi, nous sommes de bonne foi.
Alors on va continuer à ce petit jeu, Jean-Marc, vous êtes... Le pouvoir iranien, monsieur le pouvoir iranien, vous n'êtes pas de bonne foi, en tout cas pas sur tout. Vous développez un programme de missiles, vous armez le Hezbollah, vous intervenez en Syrie.
Mais ça c'est un autre sujet, c'est pas l'accord sur le nucléaire, on en est d'accord. Je vais quand même vous répondre sur les points que vous soulevez. Sur notre programme militaire, oui nous avons développé ces dernières années des armes précises et à plus longue portée avec des missiles et des drones. Mais il n'est marqué nulle part que nous n'en avons pas le droit. Nos voisins le font aussi, Israël, l'Arabie Saoudite, et ils nous désignent comme leurs ennemis. Donc nous devons bien nous armer pour être prêts à nous défendre. Sur nos interventions à l'extérieur de nos frontières, nous y allons quand on nous le demande. En Syrie, oui. En aidant le Hezbollah libanais, oui. Au Yémen, on nous accuse de fournir des armes aux rebelles houthis, mais nous le contestons. Donc si l'ONU veut initier un grand sommet pour régler tous les conflits au Proche et au Moyen-Orient, dont acte, mais ça n'a rien à voir avec l'accord sur le nucléaire, dont Donald Trump nous rebat les oreilles. Je ne sais pas s'il parle comme ça tout à fait, mais bon, c'est
sûrement. Alors dites-moi quand même la vraie vérité, la vérité de la cuisine. Comme on dit, est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de nous dire que vous craignez que votre place soit remise en cause si l'accord est dénoncé par Donald Trump ?
Ça, je vous le dis qu'à vous dans le creux de l'oreille parce que c'est tabou. Si l'accord est déchiré, les plus contents d'entre chez nous, ce seront les radicaux. Ils diront, on vous l'avait bien dit, on ne peut pas faire confiance aux Américains. Ils essaieront de séduire les jeunes qui n'ont pas de travail en leur disant non seulement nous n'avons pas pu relancer l'économie parce que les sanctions n'ont pas vraiment été levées, mais en plus les États-Unis nous désignent comme les coupables. Sortons nous aussi de l'accord, redémarrons immédiatement l'enrichissement de l'uranium. Dans un an, on aura la bombe. Bon voilà, ne le répétez pas, mais j'espère que comme ça vous comprenez un peu mieux mon problème de président iranien que je suis.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four sur France Inter et dans Un jour dans le monde, il est 19h.